Rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous culture après cette pause estivale. Aujourd'hui, Frédéric, Christiane, notre fidèle lectrice, et moi, Anne, allons vous présenter dans l'ordre. Alors, Tous tes enfants dispersés de Beata Umubiei-Meres. Christiane nous présentera le roman de Jim de Pierrick Bailly, puis Ce lien entre nous de David Joy, ensuite Le grand jeu de Graham Swift, Mon mari de Maud Ventura, L'ami de Tiffany Tavernier et nous finirons avec En mon faible intérieur d'Alain Turgeon. Et tout de suite, je passe la parole à Frédéric pour Tous tes enfants dispersés.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous parler de Tous tes enfants dispersés, le livre de Beata Umubiei-Meres. Donc, cette romancière est née au sud du Rwanda, à Butare. Fille unique, elle fréquente l'école belge. Lors du génocide des Tutsis, elle échappe à la mort. En passant par le Burundi voisin, Beata arrive en France le 5 juillet 1994. Donc, elle a fait des études à Lille. À l'issue de ses études, elle a travaillé pour Médecins sans frontières et pour le SAMU social international. Elle vit actuellement à Bordeaux. Son premier texte est publié au printemps 2014 par la revue 21. Après Le Progrès en 2019 et son premier recueil de poésie, et Tous tes enfants dispersés en 2019 et son premier roman. Ce dernier se voit décerner le prix Éthiophile 2020. Donc je vais vous parler un peu de l'histoire du livre. C'est l'histoire de Blanche, rwandaise, qui vit à Bordeaux après avoir fui le génocide des Tutsis de 1994. Mais après des années d'exil, Blanche rend visite à sa mère, Immaculata. La mémoire douloureuse refait surface. Celle qui est restée et celle qui est partie pourront-elles se parler ? Se pardonner, s'aimer à nouveau. On trouve aussi le personnage de Stokely, c'est le frère de Blanche. Stokely, lui, est pris entre deux pays et il veut comprendre d'où il vient. Excusez-moi, Stokely, c'est le fils de Blanche, en fait. Alors, j'ai beaucoup aimé cette ode aux mères persévérantes, à la transmission, à la pulsion de vie qui anime chacun d'entre nous. Tous tes enfants dispersés portent les voix de trois générations tentant de renouer des liens brisés et de trouver leur place dans le monde d'aujourd'hui. Sous une pudeur et avec une retenue trompeuse, Blanche et Immaculata dévoilent leurs doutes et leurs douleurs. Immaculata tournée vers Bosco, ce fils qui n'est jamais vraiment revenu de la guerre, et Blanche, fragile et maladroite, devant le besoin d'identité de son propre fils, Stokely. Je vous recommande chaudement ce livre de Beata Umubiei-Meres. Je passe la parole à Christiane pour...
Bonjour Christiane.
Voilà, vas-y.
Bonjour.
Vous êtes au téléphone donc pour nous parler de roman de Jim de Pierrick Bailly.
Oui, donc... Le résumé de cette histoire, depuis la naissance de Jim, dont on apprendra le prénom que très très tardivement dans le roman. Donc depuis sa naissance, Emmerich élève Jim avec sa compagne, sans en être le père biologique. Jour, après année, se construit une vie de famille autour de cet enfant. Au bout d'une dizaine d'années, qui passent évidemment très vite, le père biologique de Jim fait son retour et s'immisce dans leur vie jusqu'à s'y installer définitivement. La place et le rôle d'Emmerich sont remis en question sans que ce soit jamais clairement exprimé, par la mère, le père, et sans qu'Emeric n'y comprenne vraiment grand-chose. De silence en mensonge, de lâcheté en renoncement, la relation entre Emeric et sa compagne, puis entre Emeric et Jim, se dégrade jusqu'à l'éloignement et la rupture. Chacun d'entre eux ressentira tour à tour désespoir et souffrance, tout en évitant d'en parler avec sincérité, ce qui ne fait qu'augmenter incompréhension et ressentiment. Ce roman met en évidence des relations très complexes entre paternité, attachement, permanence des sentiments, pour des personnages qui sont, on va dire, assez modernes, parce que marqués par la précarité économique, affective et amoureuse. Et parallèlement à cette histoire de parentalité, il y a aussi question de construction d'un homme, Emeric, qui au fil des années va trouver dans sa terre natale, le Jura, la force et les ressources nécessaires pour grandir et s'affirmer à sa façon. En quelque sorte, ce serait deux histoires en une. Quant au style, l'auteur Pierrick Bailly alterne de manière très fluide un style narratif pour raconter cette histoire qui est conduite sur une vingtaine d'années et de temps en temps un style rapide et haché pour exprimer les émotions et les tourments essentiellement d'Emeric et Jim. Un livre qui m'a bouleversée parce qu'il traite de la paternité alors qu'on a toujours un petit peu le point de vue des enfants. Et bien cette fois-ci, c'est le père qui va exprimer ses émotions. Voilà, un très beau coup de cœur pour ma part.
Merci beaucoup Christiane. Alors ce livre, vous pouvez le trouver à la bibliothèque Saint-Corneille. Et effectivement, il a été encensé par la critique et vous nous donnez encore plus envie de le lire. Merci beaucoup.
Merci.
Et moi, je vais vous parler de Ce lien entre nous, de David Joy. C'est le troisième roman de cet auteur. En 2018, avait déjà paru Le poids du monde, qui était aussi un très beau roman noir. Alors ici, il nous entraîne dans l'Amérique sauvage et rustre des Appalaches, en Caroline du Nord. C'est une terre rurale où chacun se connaît depuis des générations. On part à la rencontre de quatre personnages principaux, dont Darl Moody, qui est parti braconner un cerf de nuit sur les terres d'un voisin absent. Quand il a abattu malencontreusement Sissy Brewer, en pensant que c'était un sanglier. Cet accident de braconnage est le déclencheur d'un enchaînement inéluctable d'événements tragiques. C'est une histoire d'homme soumis à des choix, aux conséquences irréversibles. Une histoire de vengeance, de culpabilité, entre deux frères et deux amis. Le frère du disparu, Dwayne, est un personnage passionnant, un grand méchant de western, une brute éprise de religion. Il cite constamment la Bible, mais croyant au Dieu de l'Ancien Testament qui prône l'œil pour œil. Il a un attachement viscéral pour son frère, qu'il s'était donné pour mission de protéger, et il a failli à sa mission. En le perdant, il perd son dernier repère, sa raison de vivre. C'est un personnage profond, double, à la fois monstrueux et humain. Et il est capable d'explosions de violence. David Joy parle avec justesse des hommes qui n'ont plus rien à perdre, de personnages qui vivent pauvrement, difficilement, mais qui ont des liens familiaux puissants et des amitiés indéfectibles. Il en fait des personnages auxquels on s'attache immédiatement. La nature grandiose et rude rend le contraste encore plus saisissant entre sa beauté éclatante et la noirceur des êtres. C'est un sublime portrait de la brutalité, de la fraternité et de la solitude. L'écriture sobre donne un sentiment de plénitude et restitue l'atmosphère des grands espaces isolés avec une grande puissance. C'est à la fois réaliste, cru et poétique, très beau et la fin est poignante.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule et dévot, à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien,
Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Amour. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
C'était Palais d'argile, extrait de l'album de Feu Chatterton de cette année. L'album a été entièrement réalisé par Arnaud Rebottini, grand nom de la scène électronique française et producteur césarisé de la BO du film 120 battements par minute. Donc je vais maintenant vous parler du livre de Graham Swift, Le Grand Jeu. Je le montre. Voilà. Donc, l'auteur Graham Swift est un Britannique né en 1949 à Londres. Le marchand de douceur et l'affaire de Shuttlecock sont considérés comme ses plus grands romans et c'est un auteur très talentueux. Il est à la fois héritier de Dickens et de Faulkner et il donne dans ses romans une vision assez sombre de l'histoire, soulignant les grandes fractures liées aux révolutions politiques, industrielles et culturelles qui ont contribué à forger la littérature actuelle. Donc, quelques mots de l'histoire. Donc, c'est dans le théâtre de la station balnéaire de Brighton que se produisent chaque soir Jack Robbins, Ronnie Dean et Evie White. Cet époustouflant trio offre aux vacanciers du bord de mer un spectacle de variété à nul autre pareil. Sur les planches, ils deviennent Jack Robinson, Pablo le Magnifique, magicien hors pair, et Yves et Eve, sublime assistante au costume étincelant. Le succès ne se fait pas attendre et leur numéro se retrouve bientôt en haut de l'affiche. Le charme n'opère d'ailleurs pas uniquement sur scène. Au fil de l'été, les deux amis succomberont l'un et l'autre à celui irrésistible d'Ivy, au risque de tout perdre. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est qu'il nous plonge dans les coulisses des spectacles de magie et redonne vie à une époque disparue. Graham Swift révèle une fois de plus son talent de conteur et nous offre une bouleversante histoire d'amour, de famille et de mystère dans la lignée du Dimanche des Mères, un de ses précédents romans. L'époque des années 60, que l'auteur fait ici magnifiquement revivre, concentre les prémices de ce qui deviendra l'entertainment à grande échelle, mais pour l'instant, il est question d'artisanat, de musical, et voilà, et de divertissement. Je passe la parole à Anne.
Oui, alors moi je voulais vous parler de mon premier coup de cœur de la rentrée littéraire, Mon mari de Maud Ventura. C'est un premier roman et c'est pour moi un tour de force. C'est détonnant, à la fois drôle et dérangeant, c'est insolite et grinçant. L'auteur part d'un postulat de départ. À quoi ressemblerait la vie d'un couple qui s'aimerait comme au premier jour ? Alors, la narratrice, héroïne, est follement amoureuse de son mari depuis 15 ans. Elle ne vit que pour lui et exclusivement. Bon, il y a beaucoup d'hommes qui aimeraient comme ça, mais il va falloir lire la suite. Parce que elle, le problème, c'est qu'elle ne supporte pas le partager. Elle est totalement exclusive. Et elle ne veut même pas le partager avec leurs enfants. Elle cherche à être parfaite en tout point pour lui plaire et lui satisfaire. Mais elle passe tout au crible. Car la vie de son mari, la vie avec son mari, doit être parfaite. Donc elle met en scène sa vie, son couple. Tout est calculé, disséqué, préparé. Ainsi, derrière son apparente légèreté, ce récit, très intelligent, analyse les tourments de la passion amoureuse, surtout lorsqu'il touche une personne instable ou extrême, qui n'a aucune limite. C'est une épouse névrosée, obsessionnelle. Et on suit son flux de pensée, grâce au journal qu'elle tient sur une semaine. C'est un personnage fascinant et complexe. Elle est à la fois amusante et terrifiante, totalement insupportable. Elle semble ne pas pouvoir exister sans son mari, mais en même temps, elle révèle une force de caractère impressionnante. C'est une dépendance affective, mais aussi alliée à une manipulation. On est stupéfié par son degré de perversité dans ses manigances pour éprouver l'amour de son mari. Elle contrôle tout, mais en même temps, elle ne se sent jamais en sécurité. L'auteur raconte tout ça avec un style vraiment génial, prenant et dynamique. C'est vif, pétillant et rondement mené. C'est un thriller psychologique atypique à la tension croissante que je vous conseille fortement. Et pour finir, encore deux œuvres dont Frédéric va nous présenter L'ami de Tiffany Tavernier.
Alors, Tiffany Tavernier, c'est la fille de Bertrand Tavernier et de Colo Tavernier, qui était scénariste de cinéma. Alors, Nils Tavernier et son frère, le comédien, né en 1965. Donc, au-delà de la parentèle très connue, Tiffany Tavernier, dès l'âge de 17 ans, part faire de l'humanitaire en Inde. Son premier roman, Dans la nuit aussi le ciel, en 1999, retrace son expérience dans les mouroirs de Calcutta. Longtemps assistante à la mise en scène, elle est scénariste pour des longs métrages et des documentaires destinés à la télévision et au cinéma. Parallèlement, elle poursuit une œuvre littéraire très, très dense. En 2015, elle signe Comme un miroir, où elle nous fait partager les bribes de son enfance. Publié en 2016, son livre Isabelle et Bérart, une vie dans l'islam, est le fruit d'une rencontre heureuse entre l'auteur et le destin d'une femme fascinante. Elle revient en 2018 avec Roissy, qui est sélectionnée pour le prix Femina 2018. En 2021, paraît le livre que je pouvais vous présenter, L'incroyable vie de l'ami. Alors, l'histoire commence un samedi matin comme un autre, dans la maison isolée où Thierry, le narrateur, s'est installé des années auparavant. Il y vit avec sa femme Elisabeth. Leur voisin, Guy, est rentré tard. Sans doute a-t-il, comme souvent, roulé sans but avec sa fourgonnette. La scène que Thierry découvre en sortant de chez lui est proprement impensable. 5 ou 6 voitures de police, une ambulance, des hommes casqués et vêtus de gilets pare-balles surgissant de la forêt. un capitaine de gendarmerie lui demande de se coucher à terre le temps de l'intervention. En état de choc, Thierry et Elisabeth apprennent l'arrestation de ses voisins si serviables, les seuls à la ronde, avec qui ils ont partagé tant de bons moments. Tenu par le secret de l'enquête, le capitaine Breton ne leur donne aucune explication. Il se contente de solliciter leur coopération. Thierry, oscillant entre le déni, la colère et le chagrin, Thierry tente d'abord désespérément de retrouver le cours normal de sa vie. Donc je n'en dis pas plus pour ne pas divulguer d'autres éléments de l'intrigue. Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que Tiffany Tavernier va nous accompagner avec son protagoniste Thierry dans un long et bouleversant voyage. Avec ce magnifique portrait d'homme, la romancière, subtile interprète des âmes tourmentées, continue d'interroger, comme elle l'avait fait dans Roissy, l'infinie faculté de l'être humain à renaître à soi et au monde. Je passe la parole à Anne.
Oui. Pour un dernier roman d'Alain Turgeon, En mon faible intérieur. Le narrateur, c'est le double en fait de l'auteur. Comme lui, il est québécois, ingénieur de formation, lyonnais d'adoption depuis 30 ans. C'est un buveur invétéré de vodka, en l'occurrence. Mais il est bien décidé à en finir avec cette habitude néfaste. Ce père de deux enfants de mères différentes dont il est séparé se résout enfin donc à entreprendre une cure de 5 semaines. Il va nous raconter cette cure, entre groupes de paroles, séances de sophrologie, rendez-vous chez le psy. Notre quinquagénaire trouve le temps long et les repas infects. Et c'est l'occasion d'une introspection pour comprendre les raisons de son état dépressif. Une enfance marquée par un gros complexe d'infériorité, le suicide de ses parents, ses frustrations d'écrivain fauché. Mais loin de désespérer, eh ben il fait rire. Son récit fourmille d'anecdotes épiques, de comiques, de situations désopilantes, comme lorsqu'il se remémore un retour au Québec à la recherche de son père biologique, un chanteur de gospel country à la gloire perdue. Tout le sel de cette autofiction, très touchante et surtout très drôle, repose sur un style merveilleux d'inventivité, où l'absurde s'invite à la façon de Raymond Devos. C'est truffé de jeux de mots, avec un sens de la formule et un talent extraordinaire pour jouer avec les expressions de la langue française. Les expressions, il les prend dans tous les sens, pour en faire ressortir l'absurdité ou la pertinence, ou les deux à la fois souvent. Je vous conseille fortement cet écrivain, Alain Turgeon, dont c'est le 9e roman, et qui préférerait être reconnu tume que posthume, comme il dit. Donc,
le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Nous arrivons au terme de cette émission. Aujourd'hui, nous vous avons présenté « Tous les enfants dispersés » de Beata Umubiehi-Meres, le roman de Jim de Pierrick Bailly, « Ce lien entre nous » de David Joy, « Le grand jeu » de Graham Swift, « Mon mari » de Maud Ventura, « L'ami » de Tiffany Tavernier et enfin « En mon faible intérieur » d'Alain Turgeon. Demain, samedi 18 septembre, à 20h à la bibliothèque Saint-Corneille, vous pourrez assister à une pièce de Chloé Descheries, Bardane et moi, de la compagnie Moustache. Accompagnée d'une Bardane, la comédienne Chloé Descheries présente plusieurs étapes, plusieurs possibles de la vie d'une femme et s'interroge sur ce qui constitue une trajectoire de vie. L'entrée est libre. Le mercredi 22 septembre à 17h, nous avons prévu une conférence des lauréats du prix Mérimée à la bibliothèque Saint-Corneille. Ce prix récompense la meilleure thèse soutenue sur l'époque du Second Empire. Et le samedi 25 septembre à 17h, le trésor du cellier avec la présentation de documents rares du dessinateur de génie Albert Robida. Enfin, les prochains rendez-vous culture en présentiel, vendredi prochain, le 24 septembre à 18h, à la bibliothèque Saint-Corneille. Celui-ci sera même suivi d'un ciné-clep, notre ciné-club avec le film de Martin Ritt, L'espion qui venait du froid, à 20h15. Et pour le prochain rendez-vous culture radio, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 8 octobre. Merci à tous et à bientôt.